Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Pierre Segers aura été poète, et des poètes, il aura été l'éditeur. Par le coup de génie que fut au sortir de l'occupation l'invention de la collection Poète d'aujourd'hui, la poésie est venue se poser sur des étagères, des cosy corners, des bibliothèques, où elle n'aurait souvent pas trouvé place sans elle. De génération en génération, l'image de ces monographies s'est gravée dans nos mémoires. De format presque carré, les couleurs changeantes de ce livre de poche avant l'heure se confondaient avec celui des auteurs. Vert Éluard, Queneau, vert Verlaine, rouge Rimbaud, rouge Aragon, rose Nerval, bleu Hugo. En 1962, la collection s'ouvrait aux poètes chanteurs. En naîtra la série Poésie et chansons. Segers, qui lui-même aura été chanté par Ferret, Gréco, Catherine Sauvage, Marc Augeret et bien d'autres, ne traçait pas de frontière entre le majeur et le mineur. À près de 70 ans, il deviendra d'ailleurs étudiant pour soutenir une thèse intitulée « La poésie en France et la culture populaire ». Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose. Je la tiens pour essentielle à l'homme, autant que les battements de son cœur. Écrivez celui qui, dans la France occupée, avait fait de la poésie une arme de résistance. En 1959, Pierre Segers était l'invité de José Pivin dans « Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée ».
Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée. Une émission imaginée et réalisée par José Pivin qui présente aujourd'hui une matinée avec Pierre Segers. Des poèmes de Pierre Segers seront lus par Lolé Bellon et Jean Topard. Des chansons sur des paroles de Pierre Segers chantées par Jacques Douai. Prise de son Madeleine Sola, assistant de production Jean-Pierre Collat.
Cette heure de la matinée, nous allons la passer avec Pierre Segers dans une solitude faite de douceur d'ombre et de silence qui nous uniront au monde. Pierre Segers, pourriez-vous, en nous parlant de votre enfance, nous dire comment vous avez été amené à ressentir des contacts presque amicaux avec toutes les choses de la terre, même avec les pierres?
Pour moi, n'est-ce pas, l'enfance, j'ai l'impression qu'elle ne commence qu'à l'âge de 6 ou 7 ans. Je suis né à Paris, j'ai vécu à Paris jusqu'à l'âge de 6 ans. Mais d'Auteuil, où j'habitais, paraît-il, avec mes parents, eh bien, je ne me souviens de rien. Mon premier souvenir d'enfance est dans le train. Dans un train qui nous emmenait, ma mère, mon père et moi, jusqu'en Provence, où mon père devait installer une petite usine de papier photographique, car il fut un des pionniers du papier photographique. Et dans ce train, je me souviens d'un album de timbre-poste, j'avais 6 ans, et j'ai passé, je crois, tout le temps du voyage, il durait beaucoup plus qu'à présent, à vivre avec cette sorte d'aventure qui était ce tout petit album de timbre-poste d'un enfant. Ensuite, j'ai vécu donc à Carpentras, où j'étais au collège. J'ai toujours été assez heureux en classe. Il y a eu, si vous voulez, 2 périodes. Je crois que jusqu'à la troisième, j'étais un élève très indiscipliné, mes parents étaient très inquiets, j'avais appris à jouer au billard et au poker, j'étais pourtant assez jeune, et je trouvais que ces classes de jeu étaient infiniment plus agréables que les classes proprement dites. Mais ensuite, alors je ne sais pas, il s'est produit une évolution, et à partir de la troisième, j'étais extrêmement heureux en classe, j'avais découvert une passion personnelle qui est celle des mathématiques, et je m'amusais avec les mathématiques, comme d'autres s'amusent avec les cartes à jouer. Il y a une certaine rigueur, une certaine clarté, une certaine élégance dans la résolution d'un problème mathématique qui correspondent un petit peu, si vous voulez, à une sorte de métier de poète, n'est-ce pas? Car ce n'est pas seulement une inspiration, c'est aussi un art, la poésie. Et peut-être était-ce parce que je retrouvais cette sorte d'élégance et de structure, de ductilité, de possibilité dans les mathématiques que je les aimais. Et je continue à les aimer. J'avais comme condisciple André de Richaud, qui a, vous le savez ensuite, été un des romanciers de la jeune équipe de chez Grasset, et qui a écrit d'excellents poèmes que l'on ne connaît pas suffisamment d'ailleurs, des poèmes remarquables qui s'appellent « Le droit d'asile ». Et il faut comme toujours 20 ans pour que l'on s'aperçoive qu'un grand poète est parmi nous. Ça viendra. Alors j'ai fait toutes mes classes avec André de Richaud et j'avais là trouvé, si vous voulez, un camarade avec qui j'avais les échanges qui me convenaient, qui sont des échanges de jeunes garçons qui s'intéressent à la poésie, à la littérature. Et j'ai été, comme tous les jeunes gens, j'ai été ce qu'on appelle maintenant les blousons noirs. C'est-à-dire qu'évidemment, nous faisions, même à Carpentras, même à Avignon ensuite, des petites bandes de garçons de 9 à 14 ans, qui étaient des bandes rivales, qui se battaient entre elles. Mon Dieu, ce sont des âges auxquels, disons, ces jeux, lorsqu'ils restent innocents, sont des jeux tout à fait normaux. Les grands ont appris aux enfants à jouer à la guerre, et la guerre est à ce point mise dans leur sang que même tout petit, c'est une des activités de jeu qui leur paraît, hélas, le plus normal. On cherchait à faire des prisonniers, et le grand jeu, c'était ensuite de mettre entre leurs doigts de pied, entre leurs orteils, des petits serpenteaux, vous savez, des petites fusées qui partaient pour leur faire peur. Des fois, ça les brouillait un petit peu, d'ailleurs. Mais enfin, c'était des jeux, bon, pas très graves, mais qui, pour nous, paraissaient évidemment le comble du courage de résister à certaines épreuves.
Vous n'aviez quand même pas l'impression de faire la guerre, justement.
Les enfants sont très sérieux. Quand ils se battent entre bandes rivales, je crois vraiment qu'ils ont, je ne dis pas qu'ils s'en veulent à mort, mais qu'ils sont capables de cruauté et de prendre au sérieux ces jeux-là. C'est ce qui est très dangereux.
Et vous croyez que c'est dû uniquement au fait que les parents leur ont parlé de la guerre, bien ?
Ils vivent depuis 30 ans dans un climat où la guerre est en permanence à leur porte, où les parents, ou vraiment les grands-parents, toute la famille a toujours ou fait ou vécu sous la guerre, a toujours été atteinte par la guerre. On leur donne, malheureusement, les instruments, les pistolets, les revolvers, les fusils, tous les éléments. Les journaux sont pleins de guerre. S'ils commencent à lire et à prendre le journal de papa, ils s'aperçoivent qu'on s'intéresse aux bombes. Que voulez-vous qu'aiment les enfants s'ils n'aiment pas ce que les parents paraissent aimer ? Alors bon, je n'ai pas fait que m'amuser avec des serpenteaux dans les pieds de mes camarades. J'ai appris très vite à nager, évidemment toujours à l'insu de mes parents. Il y avait plusieurs étangs, très beaux étangs qui sont dans les environs d'Avignon ou de Carpentras, et nous allions nager dans ces étangs. Et il y a aussi les sorgues. Ce sont des rivières qui viennent toutes de la fontaine de Vaucluse, et qui se divisent, qui sont d'une eau extrêmement claire, qui... au long de leur cours, rencontrent des moulins à papier, des moulins à grains. Il y a toujours de très grands arbres, des platanes, il y a beaucoup de roseaux. Il y a vraiment tout un cours sans aucune agglomération, sans aucune grande usine. Il y a là une grande campagne où on faisait des cultures très diverses qui sont parcourues par ces grands chemins d'arbres et d'eau. Et c'est dans ces sorgues que j'allais nager avec mes amis. Lorsque j'ai eu comme ça 13 ou 14 ans, j'ai eu un très grand besoin de solitude et de recueillement, si vous voulez. C'est un mot un peu grand pour un enfant, mais enfin, ça devait être cela. Et je partais le plus souvent possible, seul, avec un vieux vélo que mon père m'avait acheté, et je partais le long des sorgues, soit pour aller à la pêche aux ablettes, soit pour aller me baigner, mais je crois que ce n'était en fait que des prétextes. C'était pour être seul, c'était pour avoir un contact avec ces arbres, avec ce silence, avec cette grandeur, enfin avec cette vie que je trouve extraordinaire qui nous est offerte. Et je la découvrais comme un enfant, mais un enfant déjà un petit peu plus grand, n'est-ce pas ? Je la découvrais aussi comme peut-être déjà comme un poète. Et je crois que c'est ce contact avec ces éléments naturels du matin, disons 4h30 du matin jusqu'au soir à 6h, eh bien, je crois que c'est ce contact qui m'a profondément marqué, qui m'a imbibé et qui convenait certainement à mon plus secret besoin. Je crois que nous sommes tous, non pas des individus séparés, mais une sorte de vaste chaîne, comme les fourmis sont des chaînes, n'est-ce pas? Et que c'est cette sorte d'ensemble, cette humanité, qui est une sorte de plasma divin tout autour du monde.
Et fait de la même matière que les rochers, la pierre et les...
Exactement, n'est-ce pas? Seulement nous avons une étincelle vivante. Ce que l'homme adore, c'est la vie. Et je suis beaucoup plus certain de dire que le soleil est Dieu que de vouloir faire un Dieu, disons, de l'esprit, qui n'est qu'une sorte de construction du cœur, mais aussi de la logique de l'esprit. Je crois, je vous le disais, aux éléments de la nature, donc je crois à ma propre nature. Et cette force vitale, qui est, si vous voulez, un sentiment religieux pour moi, que je l'aperçoive à travers un platane, que je la sente en moi, ou dans un homme, cette force vitale est pour moi plus importante que l'expression de cette force vitale. Je veux dire que vivre, pour moi, vaut une œuvre.
Beau musicien, qui vient, avec ton chapeau à plumes, avec ton chien et ta guitare, où que tu sois, il n'est jamais trop tard pour chanter l'amour. Beau musicien qui vient, sous le soleil, sous la lune, avec ton oiseau et tes doigts. Où que tu sois, il n'y a que ta voix pour chanter l'amour. Beau musicien qui vient, qui part, quand le petit matin fume, avec ton chien et ta guitare. Ah, tu m'as volé un peu de mon phare pour chanter l'amour.
Si je m'endormais au cœur du rien dans des confins rongés d'eau grise, si je naissais dans des berceaux taillés dans le cœur des géants, si j'avais le soleil pour dais, la nuit pour traîne, et si le cœur du monde résonnait avec les oiseaux sauvages dans mon cœur, alors peut-être, au centre de tout, naîtrait une rose, non plus un cri, mais une fleur vive dans un jardin, et toutes les rumeurs, le bruit du ressac, le train des houles, se tairaient pour une seule rose et son parfum. Les arbres morts reverdiraient pour remonter dans leur voyage, pour annoncer que sur les plages, les hauts nuages et les vents ne croient plus aux dieux morts, que tout revit dans la durée d'une fleur d'un seul jour, que le temps partage le temps, et que tout continue, et que tout recommence, que l'intérieur regarde et parle et refleurit, dans le silence revenu où l'on entend battre une rose.
Pierre Segers, je crois que vous avez beaucoup voyagé. Voudriez-vous nous parler de vos voyages ?
Oui, j'ai beaucoup voyagé, mais ces voyages se situent, disons, après la guerre, la dernière guerre. Un des premiers voyages m'a conduit dans le pays des mille et une nuits. C'est le voyage que je voudrais refaire, quoique les conditions aient maintenant tellement changé que je ne retrouverai peut-être pas cet émerveillement. Je suis allé en Égypte, Alexandrie, le Caire, Louxor, la Vallée des Rois. J'allais là pour le compte de l'Alliance française. Et j'étais, disons, le premier, je n'aime pas le mot, mais enfin le premier conférencier à renouer un contact avec ceux qui nous aimaient tant en Égypte, c'est-à-dire tous ces Égyptiens de langue française, et Dieu sait s'il y en a. J'apportais là le salut des poètes français Et je n'oublierai pas les amitiés que j'ai pu faire en Égypte et dans ces pays du Moyen-Orient. J'ai passé les nuits à Louxor à me baigner de temps en temps dans le Nil avec un batelier noir qui avait une peur affreuse parce qu'il paraît qu'il s'était défendu. Enfin, j'ai découvert là une magie extraordinaire, celle du désert, celle qui est beaucoup plus loin que les pyramides, cette immensité qui, paraît-il, maintenant devient, tant mieux pour le pays, un pays industriel. Je me souviens aussi, au bord du Nil, de ces bœufs dont les cornes sont comme des lyres, et comme il y fait très chaud, les bêtes entrent dans le fleuve pour se rafraîchir, pour chasser sans doute les mouches, et on aperçoit simplement une dizaine de lyres qui sortent du fleuve, de l'eau très grise, comme cela, et vraiment c'est un paysage extraordinaire, que cette immensité lumineuse, que ce sable et que ces lyres qui sortent de l'eau.
Et le Nil lui-même ?
Le Nil, donc, si vous voulez, de Louxor au Caire, c'est vraiment un dieu, un grand dieu liquide, un dieu vivant qui passe. Et je tiens, moi, à communier avec ces dieux qui sont les grands dieux naturels. C'est pourquoi, en dépit des interdictions, je me baignais dans le Nil à Louxor comme je me suis baigné dans le Congo. Et chaque fois que j'ai l'occasion de me plonger dans les grands fleuves, je le fais d'abord parce que j'aime nager, mais aussi parce que ça m'est très agréable d'avoir ce contact avec un très grand élément. Quand vous êtes au Caire, comme j'y étais à l'époque, et que vous êtes invité sur ces magnifiques bateaux qui sont ancrés dans le fleuve, que vous passez des soirées magnifiques, des soirées extrêmement agréables, avec une société, disons, très cultivée, le plaisir est très différent. Mais pour moi qui aime la solitude, et qui aime une sorte de contact avec une distance, je n'éprouve pas le même plaisir à partager ces réunions. Je préfère encore le désert.
Mais est-ce qu'on a une impression de continuité dans la civilisation depuis les pharaons jusque maintenant ?
J'ai l'impression d'une splendeur qui s'est perdue. Je vous dirais que réellement, je crains pour l'Égypte, puisque nous parlons de l'Égypte, qu'il y ait eu quand même vraiment une solution de continuité. De l'Égypte, je suis allé ensuite au Liban, et là également, au Liban, j'ai vu quelle était cette extraordinaire présence de la France. J'ai vu aussi ces pays merveilleux où il y a les souks de l'or, où on mange de la confiture de rose sur les marchés, où l'on peut avoir d'énormes pamplemousses glacées dans des petites carrioles tout au long des chemins.
Menez-moi dans votre jardin, on dit qu'il y fleurit des roses, qu'une fontaine les arrose. Ami, donnez-moi la main. Menez-moi dans votre jardin, le sol y est de nacre fine. Voulez-vous bien que j'y chemine? Ami, donnez-moi la main. Menez-moi dans votre jardin, les buissons, dit-on, y sont tendres. Me les faites point trop attendre. Ami, donnez-moi la main. Menez-moi dans votre jardin, cueillir les parfums d'Arabie, y goûter la mort et la vie. Ami, donnez-moi la main. La main que je te donne, ami, un jour, hélas, tu la rendras. Quand la rose sera flétrie et que la source se plaindra, je vivrai dans un jardin triste que l'amour aura saccagé, le temps à qui nul ne résiste te mettra en même danger.
Ensuite, j'ai fait l'autre partie de l'Afrique. J'ai fait le Sénégal, le Cameroun, le Lubangui, le Moyen-Congo. Et là, alors, j'ai eu un autre contact, c'est le contact avec la forêt. J'ai connu là, au lieu du désert, qu'on retrouve en haut de l'Oubangui, en haut du Cameroun, mais j'ai trouvé là la forêt primaire, la grande forêt équatoriale. Et j'ai eu d'autres impressions. Impressions vraiment d'écrasement, impression d'étouffement, impression de, évidemment, d'une moiteur et presque, comment dirais-je, qui sent le cadavre. Et vraiment, cette énorme forêt fait peur. Tout le monde a vu au cinéma les intérieurs de ces forêts, mais quand on les pénètre et que l'on fait quelques heures de marche dans ces forêts, je vous assure qu'on a un besoin extraordinaire de ciel, car on ne voit pas le ciel, de lumière, de clairière. Et quand on arrive, par exemple, dans d'assez grandes exploitations, où on a des broussées pour pouvoir exploiter, on a l'impression que si les hommes s'en allaient pour 3 mois, il n'y aurait plus ni maison ni exploitation, et que tout serait immédiatement envahi, recouvert par cette énorme muqueuse verte dont la puissance est extraordinaire.
Une impression de concurrence, presque, au fond, de vie à vie, celle de la forêt étant plus forte que la vôtre.
Ah oui, mais là, alors, je ne vois pas comment l'homme peut vaincre, parce que, la forêt est aussi immense que la mer. Et quand vous survolez la forêt tropicale, elle est à peu près la même au Brésil que dans le Congo. Vous avez vraiment l'impression de survoler une mer. Et vraiment, les crêtes moutonnantes de ces arbres, on ne voit absolument pas la terre proprement dit, n'est-ce pas? Mais quand on vole, je ne sais pas, mettons à 2000 mètres, on distingue très bien, vous avez l'impression d'une immensité à perte de vue, comme si vous survoliez la mer. C'est une mer moutonnante de cimes vertes, de cimes brunes. Et vraiment, il arrive, malheureusement, lorsqu'un avion tombe, qu'on retrouve l'épave 2 ans après. Le cas s'est produit, je crois, il y a 1 an et demi. Oui, j'ai eu un de mes amis qui était avocat à Douala, qu'on a retrouvé 1 an après dans l'avion qui le transportait, car on ne pouvait absolument pas ni savoir où il était, ni parvenir jusqu'à cette épave. C'est par le plus grand hasard qu'on y est parvenu, des chasseurs. Sinon, la forêt se replie sur les débris de l'avion, et si vous repassez 15 jours après, il n'y a aucune tache et vous ne voyez plus rien. La forêt dévore tout.
Et au point de vue humain, avez-vous l'impression qu'il s'agissait d'une ancienne civilisation, là aussi?
Alors que j'ai trouvé une civilisation incontestable et immense, enfin, et incontestée, en Égypte ou dans le Moyen-Orient, alors que j'ai trouvé là des lettrés, des traditions, des universités qui datent depuis très longtemps, alors que j'ai trouvé, disons, dans ce peuple arabe, vraiment une intelligence et des cultures très particularisées, mais qui sont bien à eux, ceci, depuis des millénaires. Je n'ai pas trouvé cela en Afrique. Je crois que les populations africaines ont été saignées par la traite, que l'esclavage a décimé vraiment ces populations, et qu'on a rendu ces populations malheureusement exsangues. On leur a enlevé les éléments les meilleurs, les plus solides, n'est-ce pas? On prenait les plus grands et les plus forts, on prenait vraiment ceux qui pouvaient être les plus beaux esclaves, et on les transportait de l'autre côté de l'eau. Eh bien, je crois que cette traite a été infiniment désastreuse pour toutes les populations noires. Mais en dehors de cela, car, disons, la traite n'a débuté qu'après la découverte de l'Amérique. Eh bien, en dehors de cela, si l'on cherche, il y a 2000 ans, comme on peut le demander à l'Égypte, quels sont les éléments d'art, quelles sont vraiment les structures intellectuelles qui existent et qu'on retrouve dans les papyrus, qu'on retrouve actuellement par la muséographie, je crois qu'on ne retrouve pas grand-chose sur le plan des populations de race noire. J'ai l'impression qu'elles restent dans un état de, disons, un peu de fraîcheur, un peu pour nous archaïque, si vous voulez, et que bien entendu, maintenant, tous ces retards se comblent et que maintenant, nous avons évidemment des intellectuels de race noire qui sont absolument remarquables et de très bons écrivains et de grands poètes. Et si vous me demandez dans le passé, c'est-à-dire 2 siècles en arrière, si j'ai retrouvé en Afrique noire l'équivalent de ce que j'ai retrouvé en Égypte, ou au Liban, absolument pas.
Est-ce que c'est gênant pour eux de ne pas avoir eu justement de civilisation passée, du moins ?
Je crois que les peuples de race noire ne sont jamais gênés. Jamais. Ils ont en eux ce privilège de pouvoir regarder la vie nouvelle et la plus moderne sans aucun étonnement. Ils ne font aucun complexe d'infériorité. D'ailleurs, pourquoi en feraient-ils ? On a l'impression que ce sont des êtres très purs qui trouvent tout à fait naturel que les hommes leur apportent les éléments les plus modernes d'une civilisation qui a demandé 2000 ans pour se faire. Civilisation qui peut-être à leurs yeux n'en est pas une, car il y a, disons, en eux une philosophie, une conception de la vie qui n'est pas la nôtre. Nous sommes à l'opposé de cette race qui, elle aussi, a pour adoration la vie. Pour les Bantous, c'est la force vitale qui est leur dieu. Le jeune étudiant qui retourne chez lui et qui est paré, si vous voulez, d'abord de son voyage, de ses études, qui évidemment a franchi en l'espace de 3 ans d'études 1000 ans d'étapes, n'est-ce pas, deviennent aux yeux de la population un représentant tout à fait naturellement accepté, indiscuté même, parce qu'il représente pour eux une force qu'ils vénèrent.
Bien, Segers, qu'est-ce qui vous a fait faire votre voyage au Brésil ?
Je suis allé au Brésil parce que j'avais été invité par des amis brésiliens qui étaient des écrivains et des poètes. J'ai fait là-bas la connaissance d'un pays extraordinaire. J'arrivais à Bahia de tous les saints, et tout à coup je me trouvais replongé dans cette Afrique que j'avais connue de l'autre côté de l'océan, mais aussi dans un pays où une sorte de joie de vivre, de danse permanente, de couleur, d'humanité étaient incessamment mêlés. Je trouvais là, à Bahia par exemple, une université où le bloc destiné aux étudiants dentistes, à 30 étages et je crois 10 ou 15 salles ou amphithéâtres pour l'apprentissage de leur art. Je trouvais là les plages les plus immenses, les marins qui avaient les plus belles voix et qui chantaient la nuit durant, tous s'accompagnant sur des guitares, des chansons du pays. Je trouvais là des villages dont le nom même était celui du musicien, guitariste, le plus connu et le plus en vogue en ce moment au Brésil. Je trouvais là, avec l'alcool blanc, la cachaça, des êtres qui avaient une chaleur humaine, une gentillesse, une vertu d'accueil, une sorte de fraternité que je n'ai rencontrée nulle part ailleurs. C'est au Brésil, dans ce pays de soleil et de musique, que j'ai rencontré vraiment le climat humain qui me plaît le plus. Pas seulement le climat humain, aussi une beauté merveilleuse, une sorte de langueur, une sorte d'émerveillement nocturne et d'invention permanente pour la fête. La fête est permanente. Vous arrivez, par exemple, dans un petit café et tout à coup, parce que vous êtes français, 10 minutes après, vous voyez arriver là, sortant de l'usine, deux femmes bahiennes avec ces magnifiques habits qu'elles ont vite revêtus, deux ou trois ouvriers qui viennent avec leur guitare, leur petit tambour et enfin leurs instruments de musique vous offrir, parce que vous êtes de passage, en riant, ce qui est leur musique. Et alors leur musique est tellement merveilleuse que tout le monde se met à danser et que vous invitez ce petit orchestre, le patron, les gens qui sont là dans une sorte de fraternité, et que vous vous retrouvez le lendemain matin, à 7h du matin, toujours en train de boire et de danser, tous heureux et tous contents. Je crois qu'il y a évidemment une vertu populaire, si vous voulez, et qu'à l'occasion de la fiesta, qui est presque permanente, tous les éléments se mêlent. C'est un, disons, une des caractéristiques du Brésil, même sur le plan racial. C'est le pays où les problèmes de race ne se posent pas. Le Brésilien est fait, évidemment, de Portugais, mais il est fait aussi de Noirs, il est fait aussi de Chinois, il est fait aussi de bien d'autres races, mais il y a là un tel mélange naturel que personne ne pense à la race, ou disons même à la, à la religion de l'interlocuteur. C'est un Brésilien. Et il y a une sorte de vertu du Brésilien qui est celle d'une force vitale, d'une vertu d'accueil, d'amitié et de chanson.
Est-ce que toutes ces satisfactions d'un peuple amènent ce peuple vers un certain progrès?
Oh, il y a un progrès extraordinaire. Lorsque vous allez à Nice, vous croyez que la promenade des Anglais est vraiment une magnifique réalisation de nos architectes. Et c'est vrai. Mais quand vous arrivez à Copacabana, sur la même longueur de front de mer, c'est-à-dire sur 4,5 km, vous voyez là des immeubles qui font entre 20 et 25 étages, tous plus modernes les uns que les autres, n'est-ce pas? Et vous avez une vision extraordinaire, car vous dites que vous arrivez à Chicago, que vous arrivez dans un pays d'une modernité fabuleuse. Quand vous arrivez à Sao Paulo, eh bien, vous voyez là également des buildings qui sont aussi hauts que ceux de Chicago, et une vie trépidante, moderne, une vie de travail, car c'est la ville où l'on travaille à Sao Paulo, beaucoup plus qu'à Rio, n'est-ce pas? Rio est une ville plus artiste, si vous voulez, que Saint-Paul. Ce pays est un pays qui se construit, qui monte, qui est la modernité même. Et disons, cette idée à la fois poétique et qu'un seul un Brésilien pouvait avoir, cette idée de construire à 2000 km, en pleine forêt, Brasilia, là où il n'y avait rien, simplement parce que c'était dans les plans et que le président Kubitschek, suivant une idée qui avait été déjà donnée, croit, et je pense qu'il a sans doute raison, qu'il faut décentraliser la capitale du Brésil et la mettre au cœur du Brésil. La création de Brasilia, où le ciment est apporté par avion, où il n'y a pas de route pour arriver à Brasilia, et où déjà on construit des immeubles extraordinaires, des universités, des palais de gouvernement, mais il n'y a que les Brésiliens pour faire ça. Où est-ce que Le Corbusier a trouvé le moyen d'édifier son premier immense monument, qui est le palais de l'éducation nationale? C'est au Brésil, c'est à Rio. C'est un pays qui est ouvert à la modernité. Les plus beaux musées sont à Rio et à Saint-Paul. C'est un pays tout à fait extraordinaire, le Brésil, où, disons, l'avancée, la vitesse, la grandeur sont naturelles. Chez le Brésilien, c'est une force vitale, c'est une force de la nature, n'est-ce pas? Il invente et il faut que son invention poétique se réalise. Il la réalise le plus vite possible et par tous les moyens.
Levantei cedo,
siribinde,
bem de madrugada,
siribinde,
fui largar cachorro,
siribinde,
nas terras de prancha,
siribinde,
cachorro grunhiu,
siribinde,
de certo é anta,
anta não é,
siribinde,
anta se é bugio, bugio não é,
siribinde,
tinha os dentes pretos,
siribinde,
tinha os dentes pretos,
siribinde,
anta se é caipeto. Menina que vai embora, menina que vai,
menina daqui não sai, menina daqui não sai.
Menina quer ir embora
pros campos de Nonoá, 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 pros campos de Nonoá.
Qu'est-ce qui vous poussait à ces voyages?
Comme vous le savez, je suis éditeur et que parfois ma vie est très mouvementée sur le plan de l'édition. Comme j'aime écrire, je choisis toujours de m'échapper pour pouvoir me retrouver. Un poète, Charles Cros, a dit, à l'époque on ne connaissait pas l'avion, « Peut-être le bonheur n'est-il que dans les gares ».
Est-ce qu'il y a un moment de votre vie, Pierre Seghers, où vous avez pensé « Je suis un poète » ?
Oh, comment dire, je ne le pense pas encore aujourd'hui. Alors, il m'est très difficile de vous dire ça dans le passé. Je crois que j'ai, disons, toujours écrit des poèmes. Je me souviens que le premier poème que j'écrivais, je devais avoir 12 ans à peu près, et depuis j'ai continué. Mais ça c'est les autres qui diront, ou qui peuvent dire si je suis un poète ou si je ne le suis pas.
Oui, mais enfin, c'était une façon d'orienter votre vie, quand même.
Pour moi, c'est une sorte de nécessité. Il y a certains moments, pas tout le temps, bien entendu, il y a certains moments où, je crois, c'est comme un arbre, comme un pommier qui fait ses pommes. Il y a un certain moment où un poème vous vient, où vous avez le besoin absolu d'écrire ce poème. Il peut être suivi d'autres où, pendant un long temps, on peut passer sans avoir d'autres pommes. Je crois que le poète, exprime ce que sentent tous les autres, mais qu'il dispose parfois, disons, d'un radar supplémentaire, d'un pouvoir sur le langage que les autres n'ont pas. D'autres ont d'autres pouvoirs. Ils peuvent exprimer, je ne sais pas, par la courbe d'un pont, par un moteur de voiture particulièrement poussé, par d'autres activités, une sorte de poésie qui est celle qui s'exprime par un autre langage. Mais alors, le poète qui écrit des poèmes écrits, celui-là peut-être a-t-il à sa disposition de temps en temps un langage, un moyen de travailler le langage, de tresser le langage, qui n'est qu'à lui, et il exprime tout à coup, s'il a la chance de réussir le poème, un élément qui deviendra plus tard un élément où beaucoup d'êtres se retrouveront et qui sera, pour le sujet choisi, leur langage commun. Beaucoup souffrent de ne pas s'exprimer. Je le vois par le courrier que je reçois, je le vois aussi par les contacts que j'ai eus lorsque on a l'occasion de lire des poèmes en public. Je comprends qu'il y a une sorte de communion qui se crée, ou d'opposition parfois, mais c'est aussi une chose intéressante, mais parlons de la communion, d'une communion qui se fait entre le poète, le poème, et l'auditoire, le public, enfin, ou le lecteur. Et que cette communion donne à autrui cette sorte de baume que peut être la parole. Il est certain qu'entre 1940 et 1944, au moment, surtout entre 40 et 42, au moment du grand silence, eh bien, les poètes ont pu, par leur langage, appeler à la conscience une population qui ne demandait qu'à être appelée à la conscience. Et que quand Paul Éluard écrivait « Liberté », quand Aragon écrivait d'autres poèmes, eh bien, quand, disons, les éditions de Minuit publiaient des livres comme « L'honneur des poètes », il est certain que ces ouvrages, qui n'étaient pas des ouvrages de complaisance ou de commande, qui étaient des cris du cœur, simplement certains éléments qui étaient des poètes souffraient parmi tous les hommes des conditions dans lesquelles ils vivaient, et autour de ce cri, les autres hommes ont découvert que c'était le cri qu'ils auraient voulu eux-mêmes pousser. Ils se sont retrouvés dans cette parole. Alors là, cette poésie a été, dans la tradition d'Agrippa d'Aubigné, dans la tradition de Victor Hugo, une poésie d'appel à la conscience. Mais il n'y a bien entendu pas qu'elle. Il y a toutes les traditions de la poésie française, et heureusement, elle est diverse.
Mais qui appelle de toute façon à la conscience.
Une conscience, mais alors une conscience qui est orientée, si vous voulez, vers d'autres objectifs.
Et vous-même, quelle sorte de conscience avez-vous l'impression d'avoir révélée ou activée?
Pour moi, je crois que l'essentiel de ma poésie, ce serait de faire se refléter dans le langage cette sorte de croyance profonde que j'ai dans les vertus de la vie. Je voudrais que l'on retrouve dans ces poèmes une sorte de foi et d'attitude de joie et de courage envers les éléments qui nous entourent. L'homme est un passage, mais c'est un très grand passage, et je crois infiniment en l'homme. Je ne suis plus tout à fait un jeune poète. On a réfléchi, on s'aperçoit quelles sont les choses essentielles. Eh bien, pour moi, les choses essentielles, c'était de croire et peut-être de faire croire en la vie, sans du tout vouloir avoir une action. Mais vous me demandez quelle action je puis avoir, peut-être celle-ci, n'est-ce pas? C'est que, à travers cette existence, ces risques, et disons actuellement toutes ces menaces, il y a quand même une permanence qui va bien au-delà de nous, qui était avant nous, qui sera après nous, qui est la permanence de la vie, de la force vitale. Et c'est cette sorte de joie de voir dans notre monde cette permanence se développer indéfiniment, même si elle nous écrase quand nous mourons à titre personnel. C'est cette permanence-là que j'ai voulu chanter.
Quand le soleil un jour ne tournera plus dans tes veines, quand la force qui passait en toi rejoindra son flux au creux des mers, quand sur les sables du néant, blanc et poli comme une sèche, ton nom au gré du souvenir ira flottant, quand le vent mêlera tes paroles au temps de vie, et que tout s'usera de ce qui passait dans tes mains, que rien ne te sera plus rien, mais tout poussière. Dis encore, avec les mots qui furent tiens, que la lumière de tes jours fut la plus belle. Le mystérieux ami des mèches de Sylvie retirait de ses yeux une gerbe d'écume. La vie a ses marées où les bouées s'allument. Moi, j'ai le souvenir de l'ami de Sylvie. La clarté de ses yeux, comme la mer amère, un sourire sombrant quand passe le nuage. Elle avait ce jour-là sa coiffe de village. Les marins revenus vendaient leurs fruits de mer. J'ai gardé ses cils bruns dans ma tête, qui battent comme ces longues fleurs dont j'ignore le nom. Les filets des pêcheurs les cueillaient au grand fond. Nous les portions à Notre-Dame des pirates. Ils avaient bu le vin des vignes de la houle au bar de l'espérance. À mon doigt, j'ai passé son large anneau d'argent. Sa mère l'a chassé, mon ami de Sylvie, qui se perd dans la foule. Il roule comme un bâtiment sans timonier. Sans souffle, il souffle dans sa corne d'épouvante. Alors les matelots disent: la revenante appelle, nous l'irons pêcher dans nos paniers. Ils reviendront au port avec leurs nasses pleines. La robe de Sylvie fleurira de poissons. Les yeux de mon ami sont noyés de poison. Je porte le deuil de la reine. Donnez-moi ma vie des chemins fuyants à l'abri des vents, à l'abri des filles. Donnez-moi ma joie comme une brindille de paille luisante au soleil levant. Je n'espère plus que l'éclat des chaumes. La moisson s'en fut au moulin porté, le pain fut amer et l'eau fut gâtée. Dans une prison languissait Guillaume. Guillaume, est-ce moi ce carré de ciel, ce chant qui s'enchante à chanter sa peine, cette attente vaine et ce bruit de chaîne? Ô mot, est-ce vous ma vie essentielle? Mes nuits, mes amours, le vin des galères, Guillaume l'ait bu dans vos gobelets, n'y goûtant pas plus qu'un goût aigrelet de raisin tourné, suri dans le verre. J'ai bu sans savoir que c'était le sang. La voix redisait: fuir, ah, fuir la vie. Guillaume buvait. Le cœur dans la lie appelait Guillaume, et la nuit descend, venteuse, grisâtre, au choc des paroles. Là-bas, un manteau de pâtre s'envole, et Guillaume va, lamentant la folle.
Amour, d'où revenez-vous? Je suis fait le temps qui court plus vite que nous, plus vite que nous. quelle peau nacrée, amour, quelle peau nacrée. Me suis poli tout le jour au fil d'une épée, au fil d'une épée. Bien froide vous fille, amour, bien froide vous fille. À présent mes doigts sont gourds et le reste aussi, et le reste aussi. Mais dans vos beaux yeux, amour, mais dans vos beaux yeux, je sais que brille toujours la flamme du feu, la flamme du feu. Le feu trempe les épées, le feu a l'odeur du feu. Laissez, je me suis trompé. Je reviens tout droit des cieux. D'où revenez-vous, amour? D'où revenez-vous? Je suis le temps qui court plus vite que nous, plus vite que nous.
J'ai écrit depuis toujours des chansons. J'ai écrit des chansons, disons, hélas, comme Charles Trenet. Je dis hélas parce que j'aurais bien voulu avoir la vie de Charles Trenet. J'aurais donné toute la maison d'édition pour chanter, je ne sais pas, au bord des rues avec une guitare ou me retrouver 500 ans en arrière. Peut-être ai-je eu un aïeul qui faisait cela. Chanter des chansons, être troubadour ou trouvère. Eh bien, j'ai composé des chansons quand j'étais militaire. Je l'ai composé pour mes camarades, car malheureusement, je ne sais absolument pas chanter. Et j'ai continué toujours. Et puis alors, cet an dernier, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais pas, j'étais de plus en plus tenté par la chanson, par une chanson qui s'apparente sans doute aux chansons du Moyen-Âge, chansons écrites, et j'ai composé différentes chansons.
Avez-vous l'impression de mettre moins de richesse dans les paroles des chansons que dans vos autres poèmes ?
Non, car alors je n'en écrirai pas, n'est-ce pas ? Pour moi, il n'y a pas d'art pauvre et d'art riche. Il y a ce que j'ai à dire, ce que j'ai envie de dire. Mon langage dans la chanson se plie aux règles de la chanson. Je trouve que la chanson, qui est un art, disons, qui touche un vaste auditoire, n'est-ce pas ? Est un art qui peut se placer sur le même rang que la poésie. Je ne fais pas de différence dans le trésor de la poésie française entre un dizain de Maurice Sèvres et la chanson « Les marches du palais ».
Les pluies, les pleurs et l'aquabonde des renommées. Que portent-elles dans leur fichu, sous leur châle et sous leur robe? Un espoir chuchoteur, un vain frémissement d'épis. Le vent, le sang, le temps qui change et le temps passe. Que disent-elles dans leur silence? Et quelle prière à deux mains presse contre elles la longue attente dans son germe? Et si pareilles l'une à l'autre, et l'une à l'autre se passant une parole, comme un anneau de mariage invisible, une promesse et un pardon. Seul, à travers leur corps, le grain se perd en terre. Elle prie pour la nuit qui gèle et pour la fleur qui veut fleurir.
Le long des routes où je m'en vais, je vois venir l'hiver qui gèle, le noir hiver au vent mauvais, mais je me souviens toujours d'elle. Si je chante, je n'ai plus froid, en vain sur mes cheveux il neige. J'ai le soleil au bout des doigts, et ma voix l'a prise à son piège. Les douces douleurs et le mal cuisant qui viennent d'amour sont doux et plaisants. Le long chemin sous la cigale, avec elle continuera. La vie est un feu de Bengale, feu d'artifice dans ses bras. Je dirai à ceux qui m'écoutent que tout mot peut endurer. L'amour est la plus jolie route, je la reprends pour le chanter. Les douces douleurs et le mal cuisant qui viennent d'amour sont doux et plaisants.
Pour vous qui êtes daté, Pierre Segers, je crois que vous avez quand même réussi à faire une sorte de miracle. Ce sont les éditions Segers qui sont des éditions qui, je crois, sont uniquement consacrées à la poésie.
Effectivement, de 39 à 57, c'est-à-dire 39 à 57, ça fait 18 ans. Pendant 18 ans, je n'ai édité que des poètes. Cela a débuté, bien entendu, par un manuscrit. J'écrivais des poèmes, je vous le disais tout à l'heure, et en 1939, avant la guerre, je ne trouvais pas d'éditeur pour éditer ces poèmes, car les éditeurs de poètes sont rares et difficiles. Alors, comme j'aimais la typographie, comme j'aimais le livre, eh bien, j'ai pensé que je pouvais peut-être envisager d'éditer moi-même ce livre. J'avais pour ami auprès d'Avignon Louis Joux. Je ne sais pas si vous connaissez ce grand typographe, qui est certainement peut-être le plus grand typographe français, quoi qu'il soit catalan, mais vivant. Et Louis Joux, qui habite au Beau en Provence, où il a ses ateliers, m'a initié à cet art abstrait, un peu mathématique, de la typographie. Alors j'avais travaillé avec lui, suivi ses conseils, et lorsqu'il s'est agi de publier mon recueil de poèmes, au fond, j'ai fait choix d'un bon imprimeur et j'ai publié Bonne Espérance, qui est mon premier recueil, en 1939. J'habitais alors Villeneuve-les-Avignon, j'étais dans une tour, la tour du cardinal des Giffons, et là, c'est aux éditions de la tour que cette maison d'édition a débuté. Ensuite, alors, 1939, déclaration de la guerre, conditions évidemment tout à fait difficiles et différentes. J'ai été mobilisé comme simple soldat, ce que je suis toujours, et j'ai eu la chance d'avoir dans ma compagnie un capitaine qui était un chansonnier dans le civil. Je lui ai demandé l'autorisation de faire paraître tout de suite une petite revue de poésie, autorisation qui me fut accordée, et c'est au tour de Poète Casqué, devenu Poésie 40, 41, etc., que s'est développé ce mouvement poétique. Je ne connaissais personne dans le monde des lettres, j'ignorais tout, puisque je vivais en province, et je n'avais pas d'argent, mais j'avais la franchise militaire. Et avec la franchise militaire, au bout de quelques mois, il a fallu mettre un second vague-mestre, parce qu'évidemment, je recevais tant de courriers que j'étais devenu, comme simple soldat, celui qui portait le plus de musettes pleines de lettres et de papiers, et que j'avais une situation un petit peu particulière. Ensuite, il y a eu évidemment les événements que vous connaissez, et à la démobilisation, j'ai hésité quelques jours, et ensuite, sur les conseils de mes amis, j'ai continué à faire paraître ma revue. C'est autour de cette revue que se sont groupés à Villeneuve-les-Avignon, le groupe qu'on dit de Villeneuve-les-Avignon. Au départ du groupe, nous avons eu Aragon, Éluard, Jean Paulhan, Francis Ponge. J'ai eu évidemment l'appui d'André Gide, de Mauriac. Je suis allé voir André Malraux lorsqu'il se trouvait à Villefranche. J'ai eu enfin, tout à coup autour de moi, moi qui ne connaissais personne, vraiment l'impression que je pouvais quand même rendre un certain service, c'est-à-dire entretenir cette permanence d'une flamme de la liberté d'expression. En 1943, je fus appelé à Vichy, où évidemment, comme d'ailleurs mon ami, Max-Paul Fouché se trouvait en Afrique, et Dieu sait le combat qu'il y avait mené, mais comme mon ami Tavernier, qui dirigeait une autre revue du même genre, Confluence à Lyon, nous avons été ensemble appelés à Vichy, et disons, on nous a dit que, bien entendu, si nous continuions, nous aurions de graves ennuis très personnels. On savait ce que cela voulait dire. Et effectivement, en 1944, on est venu pour m'arrêter à Villeneuve-les-Avignon, mais j'ai réussi à venir à Paris immédiatement, à ne pas avoir à ne pas être arrêté. Et à Paris même, où on devait également, disons, me chercher, vivant sous une fausse identité pendant quelques mois, et participant ici, si vous voulez, à, non plus à la poésie du tout, mais enfin à la libération de Paris, au mouvement de Paris, j'ai réussi à passer au travers des mailles. Ça, sur le plan personnel. Alors, au point de vue des éditions, il y eut une collection qui débutait en 1944, je crois. C'est la collection des poètes d'aujourd'hui. J'avais, quand j'étais en province avant la guerre, beaucoup souffert, comme poète, de ne pas avoir à ma disposition les ouvrages, les revues, les publications poétiques que l'on pouvait trouver à Paris. On se trouvait en province totalement isolé, totalement coupé, totalement provincial. Eh bien, j'ai pensé que d'autres garçons devaient être dans mon cas et qu'une anthologie par auteur pouvait leur rendre les plus grands services. Ce fut la première collection. Et c'est cette collection, disons, qui a été la collection pilote de cet embryon de maison d'édition.
C'était vous qui faisiez tout ?
Oui, je faisais absolument tout au début. Mais très vite, j'ai dû, comme toutes les entreprises qui se développent, disons, constituer une équipe. Et cela, c'est une des joies. Je peux dire que j'ai encore autour de moi, après près de 15 ans, les garçons qui étaient soit commis libraires, soit, disons, comptables dans les entreprises, et qui sont avec moi maintenant, puisque c'est le terme, directeurs de certains services de la maison d'édition.
Et vous êtes peut-être la seule maison d'édition qui réussit à gagner sa vie avec la poésie.
C'était assez, oui, miraculeux que de vivre seulement avec les poètes.
Et quels sont les poètes que vous avez fait connaître particulièrement ?
Je crois que j'ai aidé à faire connaître quelques poètes. Dans la génération nouvelle, je crois que j'ai fait connaître Loïs Masson, dont j'ai publié les premiers livres, Pierre-Emmanuel, dont j'ai publié les premiers livres, André Fresneau, dont j'ai publié les premiers livres, René Guicadou, dont j'ai publié à peu près toute l'œuvre, et disons alors beaucoup d'autres aussi, mais ceux-ci me viennent à l'esprit, sont peut-être parmi les plus marquants. Mais en ce moment, par exemple, j'ai publié il y a 3 ou 4 ans le premier recueil d'un écrivain, d'une femme, que je ne connaissais pas, je n'avais jamais rencontré, mais j'aimais ses poèmes. C'était Anne-Marie de Backer. Eh bien, Anne-Marie de Backer, j'ai publié 3 recueils d'elle, qui pour le grand public sont passés, disons, inaperçus, mais qui a reçu un accueil extraordinaire de la critique et qui le mérite, et qui est incontestablement une poétesse de la grandeur de Marie-Noël.
Et est-ce que vous avez des projets idéaux pour vos éditions ?
Vous savez, pour moi, l'idéal que je n'atteins pas n'est qu'un rêve, et j'aime réaliser vraiment ces idéaux.
Ceux qui portent en eux la voix puissante de l'aventure, ceux qui écoutent dans leur cœur la grande voix, ceux qui vont seuls, avec des amis hors nature, Pierre, Paul ou Léon, qu'ils ne voient qu'une fois, ceux qui glissent des doigts du malheur, qui écartent une femme, un enfant, et vivent leur soleil, ceux dont la nuit est courte et brusque le réveil, ceux qui mêlent leurs jeux comme des jeux de cartes, qui vivent de rencontres et de fanaux transmis, ceux qui s'en vont on ne sait où, et reparaissent avec de mêmes yeux et d'autres noms, qui naissent à chaque jour nouveau parmi d'autres amis, ceux qui vont à la mort comme on va vers la danse, révérence, madame, une valse, on y va, ceux qui comptent leurs jours chaque jour sur leurs doigts, ceux-là préfèrent le silence.
Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée. Une émission imaginée et réalisée par José Pivin qui vous a présenté aujourd'hui une matinée avec Pierre Segers. Des poèmes de Pierre Segers ont été lus par Lolé Bellon et Jean Topard. Des chansons sur des paroles de Pierre Segers ont été chantées par Jacques Douai. Prise de son, Madeleine Sola. Assistant de production, Jean-Pierre Collat.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 17 octobre 1959 sur France 2 Régionale. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
Será canción nueva. siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva.